Petite voix, laisse-nous emprunter ton nom, toi qui jamais ne nous quittes ni ne doutes et nous plonges dans l'insomnie vagabonde.
Guide devant la complexité du monde et boussole dans les choix de chaque route, tu restes et demeures un fidèle compagnon.
Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Voix, podcast dans lequel on partage chaque mois ce que nous vivons dans notre vie de famille engagée et militante.
Partager nos enseignements, nos succès, nos fiertés, nos doutes, nos peurs aussi. Ouvrir par notre petite voix des fenêtres de réflexion et de discussion. Inspirer, encourager, bref, revendiquer ce que nous sommes par nos pensées, nos actes et la petite voix qu'on écoute et celle qu'on emprunte.
Ce sera aussi pour nous l'occasion de prendre le temps de nous retrouver en famille et en couple pour prendre du recul sur les chemins qu'on emprunte. Et comme le mois dernier, le podcast va être articulé autour de quatre axes. Nos succès, ce qu'on a appris, découvert et ce dont on est fier. Nos patinages, ce qui travaille, ce qui est un peu plus difficile. Le care, comment on prend soin de nous et des autres. Et puis les objectifs qu'on va essayer de se donner pour le mois à venir. Alors on commence tout de suite avec les succès et je te donne direct le micro, Marion.
Chaque mercredi après-midi pendant la sieste des jumeaux, j'ai pris 1h30 pour peindre des bouts de la verrière. Donc je ne suis pas encore arrivée au bout, il en reste encore à faire. Mais l'idée, c'est que j'ai quand même réussi à avancer sur cet objectif. Donc, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'on abandonne souvent un objectif parce qu'il est trop ambitieux, trop volumineux, il nous fait peur et du coup, ça nous paraît impossible, on n'a pas envie d'aller au bout. Et là, l'idée, je pense, de fractionner, d'arriver à faire plusieurs petites actions et de se féliciter aussi à chaque fois qu'on en a fait un petit bout. Hein. Chaque mercredi, quand je pars de la verrière, je suis contente de regarder le bleu qui est apparu. J'en ai plein la figure, mais je suis contente. En faisant les choses une par une, du coup, on arrive à avancer. Donc, comment manger son éléphant? Bah, un morceau à la fois. Donc, ça serait ça mon premier succès du mois. Petit pas par petit pas. À toi, Lémi.
Ouais. Alors moi le premier succès, premier truc cool, en tout cas je sais pas si c'est un succès, mais en tout cas premier truc cool dont je suis assez content sur ce mois-ci, on a pas mal, alors le mois dernier je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait l'AG, l'Assemblée Générale de Jetting et Collectif, donc notre collectif citoyen, et il en était ressorti que les élus avaient proposé qu'on se rassemble un peu plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas deux voix qu'on emprunte d'un côté l'assaut, de l'autre côté les élus, et qu'on réussisse à se rassembler un peu plus parce que on sentait que à la fois les élus ils se décourageaient un petit peu dans leur mission d'élu, et puis du côté assaut c'était un petit peu pareil avec finalement très peu de personnes qui s'engagent à nos côtés. Donc là l'idée c'était de faire un cercle, un noyau beaucoup plus dur, et il y a eu deux réunions là-dessus sur ce sujet-là qui ont été une bouffée d'oxygène pour moi et puis je pense pour les autres aussi. On a vraiment super bien discuté, on s'est remis en phase en fait sur l'engagement qu'on voulait donner, qui est un engagement fort, et du coup j'ai vraiment retrouvé le collectif ambitieux de la campagne de 2020, pleine d'envie et d'entrain, et ça fait un bien fou. Il y a un projet majeur justement qui se dessine fin août. Donc il y a bien sûr tous les petits événements qui vont avoir lieu jusque-là, mais par contre il y a un projet de d'une fête en fait, un bel événement où tout le monde sera convié et où on pourra discuter de politique d'une manière sans le nommer parce que ça fait peur aux gens, mais d'une manière positive, et puis de comprendre que la politique c'est juste comment on vit ensemble, que ça peut être cool quand on arrête d'être individualiste, etc., qu'on commence à avoir des projets ensemble, et voilà, donc ça me motive à fond. On commence à parler de comment on peut revenir dans la vie des gens, des citoyens, aller vers eux en fait. Là on attendait beaucoup finalement que les gens viennent vers nous, qu'on organise des trucs et puis on voulait que les gens viennent vers nous. Là on va essayer d'être un peu plus présent, peut-être faire même du porte-à-porte, en tout cas être présent dans la rue, faire des choses pour que les gens aillent à leur rencontre en fait. Donc ça fait du bien.
En effet, je pense que ça redonne aussi une nouvelle dimension. Alors moi, pour le cas, dans ma mission d'élu, on était un petit peu, Lénie le disait tout à l'heure, mais on était un petit peu frustrés par notre mission qui est, voilà, on a l'impression... C'est pas qu'une impression, mais on n'a pas de pouvoir du coup, on n'a pas été élu, donc on n'a vraiment pas de pouvoir sur cette commune. Hein. On prend de l'info, on va chercher à essayer de faire avancer les choses, mais on est bloqué très rapidement. Et du coup, le lien avec Gétinier Collectif, avec l'associatif, ça permet de vraiment être actif et de pouvoir lancer des choses avant les prochaines élections et de préparer aussi ce prochain mandat qui se profile. Donc ça redonne un peu du boost.
Bah ouais, je pense que on parle beaucoup du burn-out dans le monde professionnel, mais en fait, bah là, il y a aussi le maire de Rosay là qui s'est suicidé le mois dernier. Ça montre un mal-être de tout. Le mandat d'élu peut être hyper dur en fait, surtout je pense quand on est dans la minorité, parce que c'est hyper violent en fait ce que vous vivez, surtout dès qu'il y a la presse en fait, parce que c'est un théâtre ridicule. Mais je pense que justement le lien avec des vrais gens, des citoyens, peut rappeler pourquoi vous faites ça aussi. Et c'est voilà. En tout cas, au début, c'était un mouvement citoyen. Et du coup, si tu perds les citoyens au fur et à mesure, je pense que tu commences à douter et puis à prendre des coups de violence sans avoir de puissance. Et ça, pour moi, c'est la clé du burn-out, quoi. C'est
ouais. Et puis, comme tu dis, le fait de enfin, pour moi, c'est important de ne pas perdre les citoyens. C'est-à-dire que du coup, si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu un collectif au départ, parce qu'il y avait des gens qui croyaient et qui avaient envie. Et pour moi, il faut vraiment qu'on arrive à garder, enfin, à recréer, parce qu'il y a une partie de la mobilisation qui a disparu, mais à recréer, puis à être vraiment dans cette dynamique aux prochaines élections et au prochain mandat, à être vraiment sur quelque chose de beaucoup plus citoyen. Aujourd'hui, c'est ce qu'on reproche à notre conseil municipal, hein. Il y a un entre-soi, voilà, tout est décidé à 6 personnes pour la commune de Gétinier, et c'est ce qu'on ne veut pas reproduire. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à dès maintenant intégrer les citoyens pour pouvoir créer ce mandat suivant, vraiment participatif, avec un vrai engagement. Alors pas tous, hein, on n'aura jamais 4000 personnes qui prendront la parole, mais en tout cas ceux qui ont des choses à dire, ceux qui ont envie de s'exprimer, ceux qui ont envie de faire avancer nos valeurs, qu'on puisse vraiment y aller ensemble, quoi. Qu'on soit pas juste des élus à tout décider, quoi. C'est pas ça du tout dont j'ai envie. Peut-être un autre succès ? Allez, bah ça c'était un de nos objectifs du mois de mars, c'était de vivre une journée, alors qu'on appellera la journée Collapso, hein. Vous verrez, Lénie l'a fait un peu évoluer pour le mois prochain, mais l'idée c'était de couper l'électricité pendant une journée, donc à 23h le samedi 19 mars, on a coupé l'élect.
Je suis sorti dans la rue avec ma petite lanterne.
Voilà. Et du coup, on a vécu 24 heures sans électricité, sans faire appel à une source sans gaz, sans énergie. Alors, on a quand même utilisé de l'énergie parce qu'on a allumé un feu de bois quand même. Donc, sans énergie fossile, c'était ça notre objectif. Donc, on a tenu les 24 heures. Ça, c'est pas trop compliqué. On a quand même noté quelques points. Voilà. On a beaucoup aimé ce temps-là parce que c'était un vrai moment où on s'est arrêté, où on a pris le temps de vivre peut-être les choses un peu plus pleinement avec nos enfants. On trouve qu'on a passé du temps quand même de qualité sur cette journée-là avec eux. On a noté aussi quelques points. Moi, à titre personnel, j'ai trouvé ça pas facile de pas savoir l'heure qu'il était. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de montre. On a des téléphones, on a l'heure sur le four, sur le radio réveil, mais on n'a pas de montre. Et moi, j'ai trouvé ça difficile de pas savoir quelle heure il était. En fait, c'était voilà, assez nouveau pour moi de me sentir un peu perdue dans la journée. Et ça note un rapport au temps aussi, hein. On est conditionné par cette heure qui s'affiche au fur et à mesure de la journée. On s'est rendu compte aussi qu'on était dépendant de pas mal de choses, hein. Nous, on a la chance d'avoir un Thermomix qui nous aide beaucoup dans notre préparation de repas au quotidien. Et notamment, il pèse les aliments. Et là, on a fait des pizzas au feu de bois le dimanche midi. Et en fait, on n'avait rien pour peser notre farine. Et du coup, c'est un peu perturbant de se dire que, bah, une fois qu'on coupe les lecs, on est vraiment dépendant de toutes ces machines. Donc, voilà. Peut-être pour la prochaine, il va falloir s'acheter un verre doseur ou fabriquer un verre doseur. Il y a peut-être quelque chose à inventer.
Mais voilà, en tout cas, c'est hyper, hyper cool. On a tous adoré ça. Quand j'ai été rallumé, par contre, ça m'a un peu titillé quand même parce que, alors déjà, toutes les lumières étaient allumées intégralement, dehors, à l'intérieur, aux chiottes, partout. Donc ça, c'était un peu fou. Et puis, en fait, on a mis un lave-vaisselle, on a mis... On a mis une machine à laver, on a tout fait quoi. Et du coup, c'est là où c'est un peu la limite de l'essai, c'est qu'on a appris certaines choses, mais au final, on n'a pas lavé notre linge au lavoir ou dans une baignoire ou je sais pas où. On a quand même décalé le souci au jour suivant, mais.
Après, je trouve que ce qui est intéressant quand même dans l'exercice, même si on voit qu'il y a ses limites, c'est la relation au temps. Je trouve que, on parlait du décalage, pas savoir quelle heure il est, mais il y a aussi le fait que préparer à manger, du coup, on se rend compte que c'est super long. Voilà, il faut prendre le temps d'allumer le feu, qu'il y ait des braises assez suffisamment pour faire cuire deux pizzas, parce que comme on est nombreux, voilà, s'il n'y a pas deux pizzas, on n'a pas assez à manger. Et puis, il y a aussi, du coup, on avait sorti le four solaire pour cette journée-là, parce que le matin, il y avait un brin de soleil, donc on s'est dit, allez, c'est bon, le gâteau, il va partir. Et en fait, du coup, on n'a jamais mangé ce gâteau parce qu'il n'a pas cuit. Voilà, on est arrivé à 16h30, une heure de soleil qui n'a pas suffi à cuire notre gâteau, ce qui fait que, au goûter, en fait, on a mangé de la compote qu'on avait mis en bocal l'été dernier parce que, du coup, il n'y avait pas d'autre possibilité pour le goûter. Donc voilà, ça limite aussi, ce rapport au temps, moi, je trouve il est intéressant aussi de le remettre en perspective. Après, on était sur un dimanche. Donc c'est beaucoup plus simple aussi, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont simplifiées le dimanche, mais...
Ouais, il faut anticiper tout en fait. C'est-à-dire que là, le gâteau, par exemple, il aurait fallu que ce soit le premier truc qu'on lance en fait. Tu vois, dès le matin à 9h, dès le premier rayon de soleil, il fallait qu'il soit dans le four solaire. Et puis on s'est rendu compte aussi le soir. C'est-à-dire que, c'était avant le changement d'heure, donc il a fait nuit un peu tôt, mais du coup on a fini de manger à la bougie. Et du coup, la vaisselle, tu l'as fait quand, si c'est ça, tu vas pas la faire à la bougie, donc.
Du coup, par contre, il y a un impact sur le sommeil qui est très intéressant parce que le fait que à 21h, je pense, on était dans notre lit. On a dû rallumer, je crois, les legs vers 21h30, donc on a à peine 24 heures, mais voilà, on a juste rallumé parce qu'on était au moment où on se couchait. En fait, à 21h, t'es dans ton lit, tu lis, et comme lire à la bougie, c'est quand même assez fatigant, au final, tu te couches assez vite. Et donc, je pense qu'il y a un rapport au sommeil qui est à creuser, parce que je pense qu'on gagnerait en qualité, quantité de sommeil, à mon avis, si on avait moins l'usage de l'électricité, en tout cas en fin de journée.
Et qui est-ce qui nous a raconté l'anecdote là, de dans le temps, les gens se couchaient hyper tôt et du coup, ils faisaient une première nuit jusqu'à c'est Solène ? Donc spéciale dédicace à Sorette. Dans le temps, alors je ne sais pas dans quel temps, mais a priori, avant le Moyen-Âge, les gens se couchaient super tôt, évidemment, avec le soleil, machin, avec la nuit qui arrivait. Ils faisaient une première partie de la nuit jusqu'à minuit, où à minuit, ils se réveillaient, ils allaient s'occuper des bêtes, ils allaient s'occuper des enfants, et ils faisaient a priori certaines choses censurées. Et puis, ils faisaient l'amour. Et puis, ils allaient se recoucher vers 2-3 heures du matin. Après, ils faisaient leur deuxième partie de nuit, quoi. Chose que j'avais jamais entendue. Mais en tout cas, voilà. Il faudrait vérifier l'information s'il y a un historien dans l'histoire. Mais c'est assez drôle parce qu'en effet, ça crée de nouvelles choses, quoi. Je pense que quand tu vas te coucher à 20 heures, je pense qu'il y a des moyens. Il y a moyen que tu te réveilles un peu naturellement vers minuit, quoi. Je garde le micro et puis j'aimerais vous parler aussi d'un moment un peu clé ce mois-ci pour moi. C'était en tout début du mois, la conférence d'Arthur Keller qui est un expert en dynamique des systèmes et en surtout en... Alors le gars, quand il s'est présenté, il nous a expliqué tous les diplômes et les trucs qu'il a. Je ne savais même pas que c'était possible à son âge d'avoir autant de trucs. Mais voilà, il a passé sa vie justement sur l'analyse des risques systémiques et notamment ce qui nous concerne évidemment au niveau du rapport au climat, etc. Mais pas que du tout, c'est-à-dire c'est surtout par rapport à Meadows, au rapport Meadows du traité de Rome. Si vous ne connaissez pas, évidemment, je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un petit coup d'œil sur l'effondrement qui est écrit, enfin, c'est évident, ça va se produire de manière soit brutale, soit sur une longue traîne. En tout cas, c'est la dynamique du système, de tout système fini, qui fait qu'à un moment donné, on va décroître radicalement, et du coup, si on ne choisit pas cette décroissance-là, on va la subir de plein fouet. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que j'ai appris énormément de choses, et si j'ai un point à partager avec vous, ce serait sur la métaphore qu'il a utilisée pour parler de tout ça, de ce qu'on fait aujourd'hui quand on... Pour ceux qui ont compris, pour les hommes politiques et les femmes politiques qui ont compris, c'est que pour eux, la bataille, c'est le climat. Et en fait, ils n'ont rien compris, parce que la bataille, c'est pas du tout le climat. Le climat, c'est le côté bilan carbone, réduire les émissions, etc. Alors que ça, c'est une toute petite partie du problème, et c'est même pas ça qui va péter le premier. Et du coup, à chaque fois, systématiquement, on est à traiter un symptômes par un médicament. C'est comme si j'avais mal à la tête, donc je prends un Doliprane. Et en même temps, j'ai des problèmes de transit, du coup je prends une petite tisane, et puis de l'autre côté, j'ai la peau blanche, alors je me mets au soleil. Et en fait, pas du tout les bons remèdes, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai un cancer généralisé, et je suis en train de me traiter chaque problème qui, en fait, est un symptôme à une maladie plus grave, ben du coup c'est de la chimio qu'il me faut, c'est juste quelque chose qui va complètement chambouler ma vie, voilà. C'est quelque chose qui va complètement casser toutes mes habitudes, qui va m'empêcher de faire mon boulot, qui va m'empêcher de voilà, et c'est ce dont j'ai besoin quand j'ai un cancer. C'est pas de réduire mes émissions de carbone, quoi. Enfin, ça c'est un détail, c'est tout ce qui est biodiversité, c'est tout ce qui est toutes les limites planétaires, hein. Si vous avez déjà un petit peu creusé le sujet, vous voyez de quoi je parle. La partie de carbone dans l'atmosphère, c'est une toute petite partie du problème, quoi. C'est la protection des sols, c'est la protection des océans, c'est le nombre de plastique qu'il y a dans tout ça, c'est les matériaux qu'on ne trouve plus, qu'on ne trouvera plus, c'est les énergies qui disparaissent, c'est les pénuries, c'est toutes ces choses-là. Et du coup, cette personne-là est super forte justement pour réussir à comprendre la complexité. Je le savais, mais là j'ai pris une tarte énorme dans la tête, parce que on oublie trop. Je pense que c'est un réflexe probablement assez positif, en fait, de vouloir de réussir à se protéger en invoquant des choses simples à comprendre, et voilà, et en se disant ok, déjà on va avancer sur le bilan carbone, etc. Et en fait c'est un peu fou, quoi. La seule manière de voir le truc, c'est pas avec des centrales nucléaires, c'est juste avec la décroissance totale, en fait. C'est-à-dire si on rase des forêts avec une hache sans le moindre carbone, ben on rase des forêts quand même, on artificialise des sols quand même. Bon, bref, en tout cas, je m'arrête là, mais allez voir la conférence sur internet. Vous tapez Arthur Keller, il y en a une qui... Alors ça dure 3 heures, hein. Super intéressant. Donc si vous avez l'occasion de lire quelque chose ou d'aller le voir un jour, n'hésitez pas. Tu voulais intervenir sur Arthur Keller, non?
Si, peut-être sur Arthur Keller, parce que là tu parles beaucoup des constats. Est-ce qu'il est allé aussi sur la partie solution, sur bon, les constats, ils sont assez déprimants, les gros, on sait que c'est un peu déprimant. Est-ce que voilà, on peut aller aussi sur du positif? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
Bah, carrément. Bah, après, je pourrais en parler 3 heures sur un podcast comme ça. Faut pas que je m'étale trop, mais en tout cas, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, venez m'en parler, et puis on en discute. Dans les constats, en tout cas, en effet, alors, ça durait plus de 3h30, hein, je crois, et il y avait un super moment aussi à la fin d'échange qui était hyper intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de notes, parce que à chaque fois il me scotchait, et notamment sur des questions comme est-ce que vous êtes prêt à faire de la prison? Moi, cette question-là, bon, vite fait, je me la suis posée, je me la suis jamais vraiment posée. C'est-à-dire que, est-ce que pour les valeurs, je serais fier un jour de dire à mes enfants, moi, j'ai fait de la prison. J'ai été, à un moment donné, déboulonner le système, quoi. Voilà. Ça, il n'appelait pas à l'action radicale, violente, entre guillemets, en tout cas d'action de résistance. Il l'incluait en tout cas dans la réponse à forcément à apporter, dans le sens où on a tous des compétences, on a tous des capacités différentes. Et il y en a, c'est ça leur capacité principale, c'est qu'ils sont capables de faire ce genre de choses, d'escalader un pylône et d'aller couper toutes les antennes 5G. Il y en a d'autres qui sont capables de raconter des belles histoires, de donner envie, de fédérer. Il y en a qui sont capables de s'occuper des enfants, de faire de l'éducation, etc. Et du coup, il interrogeait pas mal autour de ça, quoi. Il interrogeait sur quelles sont vos compétences, vos trucs sur lesquels vous pouvez agir. Et puis, est-ce que vous êtes prêt à aller au bout de ça, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez conscience de ça? Et puis forcément, je l'avais pas attendu pour le savoir. C'était commencer dès maintenant, en fait. N'attendez pas le dernier moment, mais commencer dès maintenant à créer les liens, à créer les collectifs, à créer les communautés d'entraide qui habite chez vous, quoi, qui habite à côté de chez vous, parce que sans parler d'apocalypse qu'un jour il y aura plus d'essence ou je sais pas quoi, qu'on pourra plus se déplacer, sans parler de ça, c'est positif d'avoir des voisins, des gens qui habitent proches, de pouvoir compter sur eux et qui puissent compter sur nous aussi, quoi.
Du coup, ça me permet de rebondir sur un livre que j'ai lu l'année dernière qui s'appelle Les Déliés de Sandrine Rudeau. Et là, elle aborde aussi cette notion-là. Alors, c'est un roman, mais qui aurait pu être un essai. Sandrine Rudeau, elle se projette dans plusieurs années. Elle ne le cale pas vraiment dans le temps, mais l'idée, c'est qu'en fait, la société s'est restructurée et est repartie sur d'autres façons de fonctionner. Et notamment, dans ce livre-là, elle met beaucoup en avant qu'on a tous des compétences et des qualités différentes et que du coup, on peut vraiment être acteur dans le changement à notre échelle, à notre niveau, et qu'on a tous quelque chose à apporter. Et toutes ces solutions-là, toutes les valeurs qu'on a, toutes les choses pour lesquelles on milite, elles sont plutôt complémentaires qu'à s'opposer. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant. Dans Les Déliés, on retrouve vraiment cette notion de collectif, cette notion de faire ensemble, cette notion de vivre les choses ensemble. Et ça, je trouve ça intéressant. Et pour faire du lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la journée Collapso, dans Les Déliés, en fait, il n'y a plus d'électricité. Enfin, le monde a décidé de ne plus utiliser l'électricité la nuit. Donc, en fait, les villes sont éteintes la nuit. Et du coup, sont réapparus tous les papillons de nuit, les insectes, enfin tout ce qui ont disparu de nos nuits. Et je trouve que c'est intéressant aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. On a retrouvé la nuit qui est vraiment l'usage pour dormir et se reposer.
Tu pourras nous en lire un petit extrait peut-être tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Eh bien, l'autre événement qui ressemblait un petit peu, dans le sens où on a pas mal parlé aussi de nos compétences, soit qu'on avait, soit qu'on aimerait bien développer, c'est un événement qui a été organisé par un ami du monde de la tech qui se pose énormément de questions depuis, pour le coup, pas mal d'années quand même, et du coup sur le fait de comment les acteurs de la tech peuvent réparer la Terre. Donc c'était ça l'intitulé de la conférence, enfin de l'atelier. On était beaucoup, je m'attendais pas à ce qu'on soit autant, mais on était peut-être 40 ou 50. Et il y avait un constat, c'était à Openland pour ceux qui peuvent connaître. Et cet atelier, ça a commencé par un point qui m'a pas apporté grand chose, mais en tout cas qui faisait un petit peu le constat de tout ce qui se passait et qui m'a même un peu gêné à certains moments parce que c'était très dans l'apologie du solutionnisme technologique, en fait. C'est-à-dire, on parlait des Fairphone, on n'a pas parlé des Tesla, parce que ça commence à être border de parler des Tesla, mais en tout cas des solutions technologiques qui font que, vous voyez, c'est ça, c'est vers ça qu'il faut aller, etc. Alors que moi, je suis persuadé que non, c'est pas du tout vers ça qu'il faut aller, c'est vers plus de smartphones. En fait, c'est pas acheter un smartphone qu'on peut réparer, on n'en est plus là. Et du coup, je trouvais qu'on en était encore... qu'il y avait un petit décalage. Mais en tout cas, c'était intéressant parce qu'on était quand même beaucoup à être motivés, à être intéressés par le sens et se demander si nos compétences techniques pouvaient être utiles pour réparer cette terre-là. Il y avait pas mal de... Donc je le fais vite un petit peu, mais il y avait pas mal de gens qui étaient présents. J'ai pas mal discuté, après on allait boire un coup, notamment avec une personne qui partageait un petit peu ce que je pensais. Et du coup, on a créé un peu du lien, et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette communauté-là. En fait, on va se revoir bientôt, notamment par rapport à ce que je fais un peu tout seul avec Communo, dont je vais vous parler juste après. Il y a des choses à faire, en tout cas pour moi, avec la techno, mais uniquement de manière transitoire, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être pour 10 ans encore à utiliser les technos, si on peut les utiliser, et uniquement pour faire du lien entre les gens, localement, pour s'entraider, pour mutualiser, pour faire du commun. Dès lors, pour moi, hein, enfin, débattons hein, si vous n'êtes pas d'accord, mais... Dès lors que le numérique sert à autre chose, ça doit s'arrêter. Voilà. Cette personne-là me parlait aussi du côté éducatif, accès à l'information, etc. Je pense qu'il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, c'est Internet, c'est pour du porno, et puis c'est pour du Netflix, et c'est pour du YouTube, TikTok, et c'est tout ça, c'est de la merde. On n'utilise pas aujourd'hui Internet de la bonne manière. Donc je pense que... Nous, acteurs de la tech, en tout cas, la meilleure manière, c'est d'arrêter de faire ça, quoi. Enfin, si tous les acteurs de la tech commencent par s'occuper d'eux et puis arrêter de faire ce genre de choses, de travailler pour des boîtes débiles, y a plus d'Internet et il n'y a plus de débilité à ce niveau-là. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vais m'occuper de moi et puis je vais faire mon truc. Mais très clairement, pour moi, la tech a un avenir très transitoire et pour faire du commun. Et voilà, et du coup, juste avant de te passer la main, je vais parler de Communo. Communo, du coup, bon, je sais, je vous en ai pas beaucoup parlé sur les deux derniers podcasts, mais ça a bien avancé ce mois-ci, je suis très content. Pas au point de le déployer, mais je pense que je vais réussir à le déployer dans les prochains jours, prochaines semaines, une version bêta. Donc si ça vous intéresse de tester l'application vraiment dans son mode bêta déjà pour commencer à poser du matériel et puis à se l'emprunter, et ben n'hésitez pas à m'en parler, à me contacter et puis on voit ça ensemble.
Donc là on est sur l'utilisation du numérique de façon collaborative avec un vrai intérêt.
Ouais, c'est ça, c'est pour créer du commun, pour créer de la mutualisation, créer du lien entre les gens qui habitent à côté, quoi.
Donc une dernière fierté que j'avais envie de partager avec vous ce mois-ci, c'est que je me suis formée à l'animation de la fresque du climat. Donc la fresque du climat, c'est un outil qui a été créé par Cédric Reichenbach dans l'idée de partager les connaissances scientifiques qu'on a sur cette évolution du... Enfin, sur le changement climatique. Donc, la fresque du climat, c'est un outil pédagogique, un jeu pour présenter les conséquences des activités humaines sur le changement climatique. Donc, on est sur un jeu de 3 heures. L'idée, c'est de faire travailler les participants sur les causes, les conséquences du changement climatique. Et puis, un petit temps à la fin aussi pour travailler les solutions. Donc, c'est vraiment un vrai outil pédagogique pour découvrir, appréhender tous les enjeux en termes de climat. J'avais envie, moi, depuis longtemps, de me former à l'animation de cette fresque pour deux raisons. Déjà, parce que je pense que si on veut travailler les solutions avec les gens qui nous entourent, il faut déjà qu'on ait une connaissance commune, qu'on puisse partager ce que c'est vraiment les enjeux du changement climatique et quelle est réellement la problématique. Et puis parce que moi, j'ai vraiment besoin, face à ces constats déprimants, d'agir, et je trouve que c'est un bon moyen d'agir que de transmettre. C'est pas mes connaissances propres, hein, mais la fresque du climat, elle est basée sur les connaissances du GIEC, hein, tous les rapports du GIEC, donc on est vraiment sur de la connaissance scientifique. Donc je suis très contente d'avoir fini la formation, et puis c'est un de mes objectifs, hein, là, des semaines à venir, c'est d'organiser ma première fresque du climat pour arriver à partager rapidement cet outil et à le faire perdurer.
Ok, et ben dis donc que de succès ce mois-ci. On peut passer au patinage et tension, au facteur limitant, à ce qui nous travaille. Et ben je te passe la main.
Ce qui nous travaille, peut-être pas qui nous travaille, je l'avais plutôt mis en facteur limitant. On a passé beaucoup de temps là au mois de mars vers l'extérieur de la maison. Alors l'extérieur de deux volets, on a passé beaucoup de temps dans le monde associatif, nos boulots respectifs. Et puis aussi beaucoup de temps à l'extérieur de la maison. On parlait de la verrière, on parlait des semis tout à l'heure, on parlait du temps passé dans le jardin. Et du coup, bah, je pense que ça a un petit impact négatif sur l'intérieur de la maison. C'est-à-dire qu'on a notamment un peu patiné. On avait un tableau qu'on souhaitait mettre en place là à l'intérieur pour suivre notamment les Bernardos et puis d'autres thématiques de la maison. Et on bloque un peu là-dessus. Moi, j'ai pas réussi à aboutir sur le projet couture que j'avais pour l'anniversaire de Tim. Voilà. Du coup, le fait d'être à l'extérieur, ça laisse moins de temps pour la. Mais c'est peut-être l'avènement du printemps aussi. Hein. On se tourne vers l'extérieur. Et puis, c'est aussi une question de choix, je pense. Voilà. On peut pas tout faire. Il y avait 31 jours ce mois-ci, donc c'était déjà. On avait gagné quelques jours par rapport au mois d'avant. Mais ça reste, voilà, on n'a que 24 heures dans une journée. Et donc, du coup, il faut arriver quand même à prendre soin de soi et à se reposer aussi un peu. Donc, voilà, c'est un petit patinage temporel. Hein. On manque un peu de temps. Ou alors, on a trop de choses à faire, je ne sais pas.
Ouais, c'est pas tant un patinage qu'une frustration un petit peu de voir des choses qui nous tiennent à cœur pas avancer. Deuxième truc qui travaille, c'est le ressenti par rapport aux élections dans 10 jours. L'impression de d'un non-choix, je pense, qui est peut-être partagé par chez tout le monde. Et moi, c'est bizarre, mais je croise presque aucun marcheur. Tu vois, des gens qui seraient contents. Mais pourtant, tout le monde vote a priori, d'après les sondages, pour Macron. Bref, en tout cas, l'impression que même si Mélenchon passait au deuxième tour, eh ben ça changerait rien. C'est-à-dire que tout le monde voterait de toute manière pour Macron. Je ne comprends pas cette France. Je comprends pas. C'est vraiment le truc qui me travaille encore plus que l'Ukraine ou que les trucs d'énergie, c'est vraiment on s'en sortira jamais par une vision politique nationale, quoi. Enfin, voilà. Macron a prouvé pendant 5 ans qu'il en a rien à taper, il s'est fait condamner par les tribunaux français pour une action climatique. Tout le monde s'en fout, tout le monde vote pour lui. Il a creusé, il a fait le casse social total. C'est pas son premier mandat en plus, parce qu'avant il était ministre de l'économie, tu vois, donc il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des répercussions comme jamais dans le monde social, mais ça va, il est beau gosse, alors on l'élit. C'est pas un incroyable talent, quoi, enfin je comprends pas.
Voilà. Après, moi je suis moins que ça choque pas les gens qu'il ait une inaction sur tout ce qui est autour du climatique. En fait, on se rend compte que, et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, y a un manque d'information, y a un manque de prise de conscience, je pense. Donc du coup, là, ça me choque pas trop. Par contre, le social, c'est-à-dire que tout ce qui touche à nos droits, tout ce qui touche à l'entraide entre les gens, tout ce qui touche à ce qui fait que notre société, c'est une société humaine, en fait, une société d'humains qui sont censés être... voilà, moi, ça me déprime qu'on casse à ce point notre système social, notre système de santé. Enfin, il y a des gens qui sont descendus dans la rue, qui sont morts pour nous, avant nous, pour qu'on ait accès à ça, quoi, à une société qui est solidaire. Et là, on pète tout et on s'en fout. Et tout ça pour le capitalisme à mort, enfin, les lobbies.
Et puis, pire que ça, c'est-à-dire que ceux qui profitent, c'est ceux qui sont au RSA, quoi. Mais laissez-les tranquilles, putain. Ils ont 500 balles par mois. Non, c'est pas les milliardaires qui se sont enrichis comme jamais depuis 2 ans, là. C'est pas eux qui profitent. Enfin, au secours. Mais bon, désolé pour ça. Ça, c'est vraiment le truc qui me travaille en ce moment plus que jamais. L'année dernière, personne n'allait voter aux élections régionales. C'était enfin, voilà. Là...
Après, ce que je trouve assez déprimant, c'est cette façon de se monter les uns contre les autres. En fait, on devrait tous agir pour le collectif et pour faire en sorte qu'on améliore tous notre vie. Et en fait, j'ai l'impression qu'on vote pour des gens qui ne s'intéressent qu'aux 1% les plus riches et les autres, ils n'en ont rien à taper, quoi. Et du coup, bah, on devrait se révolter contre ça. Enfin, voilà, et encore, hein, nous, on n'est pas, je pense, malheureux. Hein, on vit plutôt bien dans cette société, mais... C'est, voilà.
C'est par rapport à un moment donné, il y a quelques semaines, il y a eu des débats autour de l'héritage et tout ça, et c'est Usul, je ne sais pas si vous le connaissez, bon bref, c'est un gars, allez là, si vous êtes des gauchias comme moi, allez l'écouter.
Et vous n'êtes pas riche non plus. Alors pourquoi vous êtes là? Ah mais moi, si j'étais riche, j'aimerais pas que l'État, alors que je veux céder à mes enfants... T'es pas riche du con.
On doit piger ça. Il y a de plus en plus de pauvres en France et de plus en plus de gens qui votent à droite. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Je comprends pas. Enfin, bref, j'aimerais tellement qu'on réussisse à envisager qu'on puisse avoir une réponse collective. Et en fait, là, on se réfugie vers l'individualisme. C'est bordel, qu'est-ce que ça me fait chier.
Du coup, tu parlais tout à l'heure du vote des gens sur le... Voilà, est-ce que du coup il n'y aurait pas que les cons qui iraient voter? Après, moi je comprends la déprime aussi générale par rapport à ce non-choix. On a, enfin voilà, bah, oui, tu votes Macron, enfin t'as pas grand-chose comme perspective. Moi je peux comprendre du coup que les gens aillent pas voter, mais c'est.
Moi je peux comprendre 5 minutes, et puis après je dis, c'est pas parce qu'il y a 10 candidats. Il y en a forcément un qui est moins pourri que les autres par rapport à ce qu'il propose. Donc, moi, ce qui m'énerve, c'est que très souvent, quand je parle à des gens qui ne vont pas voter, ils me l'expliquent. Et puis, pendant 5 minutes, je reste courtois et je comprends que, bah oui, ils sont tous pourris, je comprends. Mais ces gens, mes collègues, des amis, c'est qu'ils ne lisent pas, ils ne s'intéressent pas à ça. Donc, c'est-à-dire que les choses qu'on garde en tête, c'est « La République, c'est moi !» Et c'est pour ça qu'on ne vote pas pour Mélenchon, d'accord ? Sans comprendre que c'est une histoire de collectif, justement. C'est pas Mélenchon qui écrit un truc. C'est comme d'ailleurs les autres candidats, hein, Jadot, j'avoue que Zemmour et Le Pen, je m'en fous, je sais pas du tout comment ils font chez eux, mais en tout cas, moi, là où j'ai regardé, c'est des démarches collectives, c'est des démarches où il y a eu énormément de gens qui ont participé. L'avenir en commun de Mélenchon, il est là depuis un paquet de temps, depuis la précédente élection. Déjà, il a évolué, mais il est hyper cohérent, et sur les réseaux sociaux, sur partout, les gens s'arrêtent sur de la politique showbiz. Enfin, c'est affligeant. Moi, c'est pour ça que moi, que je pardonne pas à ces gens. Je trouve pas d'excuses, en fait, à ces gens qui vont pas voter. C'est juste que soit ils ont d'autres valeurs, soit ils s'en foutent. C'est comme ça. Donc, j'espère que vous allez tous voter. Mais voilà, après, chacun, c'est un droit. Les vieux diront que c'est un devoir. Je pense que c'est encore un droit. Donc, on a le droit de pas le faire, mais... faut pas s'étonner, hein. Si seuls les gens votent pour la droite, bah qu'on ait des gouvernements de droite. Et donc, du coup, je me suis encore énervé. On peut parler de comment. C'est bien que ça arrive juste après. Tu vois, ça fait un petit peu le côté pommade, relaxation. Comment on a pris soin de nous, des autres, etc. Je te passe la main parce que t'es toujours largement meilleur. Moi, je crois que j'ai presque pas de points pour moi sur ce sujet. Je te passe la main.
Alors moi, je vais commencer par moi, parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai compris depuis pas forcément très longtemps, mais l'arrivée des enfants forcément a fait que je me suis axée là-dessus. Donc je commence par caler les temps pour moi dans ma semaine, dans ma journée. Par exemple, le mercredi, je continue à me lever plus tôt pour commencer par moi. J'ai continué à à nager quasiment deux fois par semaine ce mois-ci. J'ai beaucoup lu, je pense que je suis encore à 3 ou 4 bouquins ce mois-ci. J'adore mes trajets en train dans lesquels je peux lire au calme sans être coupée. Donc ça, c'est plutôt agréable et voilà, j'aime ce temps pour moi. Je pense que j'ai pas assez passé de temps à écrire. J'aime bien écrire aussi et ce mois-ci, j'ai moins de temps pour ça, mais voilà, prendre le temps pour moi en priorité, je pense que c'est essentiel et ça fait que je suis aussi plus agréable à vivre. Mon mari ne dira pas que c'est encore parfait, mais il y a encore du taf. Mais en tout cas, ça fait qu'au quotidien, je vis les journées plus sereinement. En tout cas, quand je commence par moi.
T'es formidable.
Moi, je pense, j'ai quand même deux sujets qui sont presque pareils, qui sont autour de la thématique des anniversaires. Keo, c'était le mois dernier, mais on l'a fêté ce mois-ci. On a fait une soirée pyjama où on a invité combien, 5 copains. Et c'était mais trop bien. C'était la première fois qu'on faisait une soirée pyjama. Je sais même pas si j'en ai déjà fait moi en tant que gosse, mais du coup c'était trop sympa. On s'est couché super tard et puis il y avait une super ambiance. Donc très heureux, et puis avec Tim, je lui ai fait un super tournoi de foot pour ses 10 ans. Il a invité 11 copains, enfin il en avait invité plus, mais il n'y en a que entre guillemets 11 qui sont venus. Donc il était aux anges, lui qui ne vit que pour le football. Et puis le lendemain, il y avait toute la famille qui était là, et du coup on a fait un petit banquet dehors qui était assez sympa aussi, donc ça va, ça fait du bien. Et puis mon petit mine de rien dont je me rends compte au fur et à mesure que les années passent, qu'est-ce que j'aime voir des graines devenir germes et devenir un plant, mais ça me remplit de joie en fait à chaque fois. Là, ce mois-ci, je vous parlais, je crois, le mois dernier de quelques plantations, des kiwis, des trucs comme ça. Là, ce mois-ci, j'ai vu 10 de mes arbres, de mes noix, de mes châtaignes, etc., que j'avais planté à l'automne, sortir, mais complètement. Là, chaque jour, ils prennent 3 cm maintenant. Et je sais pas, j'adore ça.
Donc là, on serait dans le care biodiversité, du coup
Je sais pas. L'alignement, je sais pas. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, en fait. Enfin, tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il faut apprendre à créer d'une autre manière, créer du vert, créer du beau, créer du bon, créer de l'oxygène, je sais pas. En tout cas, à chaque fois que je vais dans la verrière, que j'arrose mes petits plants, que je m'occupe de ça, que je prends soin de la terre et de ces petites graines, que je les remercie de pousser, que je leur parle. Ouais, j'adore, alors que j'étais à 1000 km de ça il y a encore, je dirais 5 ans, c'était impossible. Il y a un autre truc aussi, un peu dans la même veine, c'est qu'on a une poule qui s'est fait mal, et du coup, je trouve qu'on a été super attentifs à elle. Elle est toujours un peu blessée, mais on l'accompagne beaucoup, on va la voir souvent, on l'isole, etc., pour pas qu'elle se fasse attaquer par les autres poules. Alors c'est peut-être contre nature de faire ça, en fait, de s'occuper d'une poule comme on s'occuperait d'un être humain. Mais j'ai pas l'impression. Je trouve qu'il y a comme un regard, une relation qui se crée aussi avec cette poule-là. On lui a donné un nom, du coup. Alors qu'avant, elle s'appelait Poule Grise. Maintenant, elle s'appelle Princesse, tu vois. Mais voilà, je sais pas. Le côté rapport avec la faune et la flore, je trouve... je prends du bonheur là-dedans, en tout cas, en ce moment.
Un dernier point, du coup, pour finir sur le care. Alors, c'est un dernier point qu'on a dessous, mais voilà, c'est dans la relation, dans le care. Nous, on a mis toute la relation aux autres. Et là, on a, ce mois-ci, moi, j'avais envie de vous parler de deux relations qui sont élargies, hein, qui sont pas seulement nous et nos enfants. J'ai pris pas mal de temps avec Marie-Josée, donc ma tata qui est en rechute de cancer en ce moment, et j'avais envie de vraiment prendre du temps avec elle pour l'accompagner, pour faire en sorte que on vive des vrais moments de qualité ensemble. Donc j'ai un peu mangé sur mes journées boulot. Je remercie d'ailleurs mon collègue Sébastien qui a pris un peu le relais sur les photocopies et autres petites choses qui m'ont pas mal simplifié la vie. Mais voilà, du coup l'idée c'était prendre des vrais temps avec Marie-Josée et d'avoir du temps de qualité ensemble pour échanger, discuter, se dire des choses qu'on pourra peut-être pas se dire dans plusieurs mois. Donc voilà, avec cette idée d'espérance aussi, qu'on espère que dans plusieurs mois, on pourra encore se dire plein de trucs, mais voilà, de vivre ces moments-là. Donc ça prend du temps dans la semaine, mais c'est un temps qui est pour moi important et je pense qu'il l'est aussi pour Marie-Josée. Donc voilà. Et puis un autre... alors c'est pas tout à fait le même type de relation, elle est un peu plus locale celle-là, mais la relation qu'on a avec Nicole et François, ce sont nos potes âgés, donc c'est des amis qui habitent à Gétigny et qui ont 85 ans, du coup il y a une relation de proximité, parce qu'en fait on passe devant chez eux à peu près deux fois par jour, donc même si on s'arrête pas à chaque fois, on a au moins une pensée pour eux, et puis moi je dois passer au moins, je m'arrête quand même une à deux fois par semaine facile chez eux. J'aime ces temps où ça fait un moment, hein, maintenant, on les a rencontrés grâce à la campagne municipale en 2020. Et du coup, depuis ce temps-là, je m'arrête souvent boire le thé avec eux. Et je trouve que c'est une relation qui est hyper importante dans mon quotidien. Alors, des fois, je vais prendre une heure, des fois, je vais prendre deux minutes. Mais prendre ce temps-là avec eux pour échanger, discuter, donc je donne hein, du temps, de l'énergie. La mardi, on est allé ensemble à la SPA à Carquefou. Je les ai emmenés parce qu'ils n'étaient pas capables de conduire jusqu'à Carquefou pour aller adopter un chat. Leur chat était décédé il n'y a pas très longtemps et du coup, ils avaient envie d'adopter un nouveau chat. Et voilà, et du coup, je trouve que vivre ces temps-là ensemble, et bah voilà, je sais pas ce que ça leur apporte, je pense qu'ils sont aussi contents de cette relation-là, mais moi en tout cas ça m'apporte beaucoup et j'ai besoin de ces relations aux autres, voilà, même si des fois ça empiète sur d'autres projets qui on peut se dire plus urgents, tout ça, et bah j'ai envie de prendre ce temps-là pour les autres en tout cas.
Je pense pas qu'il y ait plus urgent que ça en fait. C'est comme ce dont je parlais, communaux ou des trucs comme ça. Là, ce dont on a besoin, c'est de créer du lien avec les gens qui nous entourent, qui sont nos voisins, qui sont tout ça. Et on est dans un monde individualiste au possible. Et du coup, quand t'es vieux, c'est un calvaire en fait d'être tout seul, de t'emmerder toute la journée. Voir nos cinq monstres débarquer, c'est juste... ça peut être un calvaire pour certains, c'est un bonheur pour eux en fait, et nous en fait ça nous fait aussi ce bien fou de vivre, de partager leur fin de vie entre guillemets, même s'ils n'ont pas prévu de mourir demain, mais ils sont plus du tout dans la recherche d'efficacité ou de productivité, ils sont juste dans je vais pas dire l'oisiveté, ils font quand même des choses, mais ils sont ils vivent quoi. Avec un timing totalement différent, etc. Et du coup, ça fait aussi un bien fou de goûter à ça, mine de rien, même si c'est une heure par semaine ou quoi. Je pense que les enfants, ils aiment aussi ces... Alors, parce que aussi, ils n'ont pas des papy-mamies qui habitent juste à côté. Mais je crois qu'on a perdu ce truc-là qu'on avait... qu'on avait dans nos sociétés avant où on habitait proche de nos parents, on habitait proche de nos grands-parents, etc. Et puis il y avait cette vie plurigénérationnelle. Et je pense qu'on a besoin de ça, donc carrément faites-le. Et puis je crois par contre que c'est encore plus important pour eux. Je pense que c'est encore plus important pour eux.
Oui, c'est une relation, mais c'est le propre pour moi d'une relation, c'est que du coup ça nous apporte, on apporte aussi et on vit pour moi on crée des souvenirs, on crée quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas matériel, qui n'est pas financier, mais qui est vraiment ce lien-là, il est hyper important. Les enfants, ils passent devant chez Nicole et François, ils sont presque frustrés quand on ne peut pas s'arrêter, quand on ne peut pas prendre le temps d'aller jouer dans le jardin, quand on ne peut pas prendre le temps de s'arrêter avec eux. Donc moi je trouve ça hyper important et j'espère qu'on pourra poursuivre dans les mois à venir cette relation là et en tout cas le lien avec les gens hein, c'est donc on parle de ce mois-ci, mais il y a aussi d'autres relations qu'on pourra étoffer plus tard.
Rien que les relations qui sont moins transgénérationnelles, mais avec les élus, avec les membres du collectif aussi, mais là c'est vrai que le focus sur les potes âgés c'est intéressant aussi, je pense. Bon, les objectifs pour le mois qui arrive, là, le mois d'avril. Qu'est-ce que tu as de ton côté ?
Alors, de mon côté, j'ai un objectif qui est très personnel, mais bizarrement, moi, j'aime pas... Alors, je sais pas comment trop le dire, mais moi, j'aime pas trop le changement. Les vacances et les voyages, pour moi, sont assez compliqués parce qu'on sort du quotidien. Et même si j'adore découvrir des nouvelles choses et j'aime me lancer, partir à la découverte de quelque chose, et ben en fait, à chaque fois, quand même, ça me met dans un état de stress. Et là, donc, on descend à Marseille avec les enfants en train pour une grosse semaine. Et du coup, j'ai envie de faire en sorte que ce soit serein et que j'arrive à le vivre le mieux possible. Je sais que ça va être chouette et sympa et j'ai vraiment envie d'en profiter. Donc, un objectif émotionnel, peut-être, on va l'appeler. En tout cas, de gestion de mes émotions déjà, j'anticipe le fait que le train peut être un moment compliqué avec les enfants, mais je suis sûre qu'on arrivera à transformer ça. Je continue peut-être un objectif qui est plus pratique, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais plus concret en tout cas. Moi, j'aimerais, suite à ma formation de fresqueuse pour la fresque du climat, j'aimerais planifier vraiment une fresque pour arriver à en animer une, soit dans la deuxième quinzaine d'avril, soit au mois de mai, mais arriver en tout cas à en animer une rapidement.
Mon plus gros objectif du mois d'avril, ma plus grosse souffrance qui s'annonce, c'est le marathon. Sur lequel je ne me suis pas beaucoup entraîné, on ne va pas se mentir. Je vais essayer quand même de le faire, peut-être en 4h30, peut-être en 4h45, essayer de le finir, et puis on verra, on va voir dans un mois si je reviens avec, si j'ai fait un infarctus ou si au contraire j'ai réussi à le faire quand même. Mais voilà, l'autre objectif vraiment important pour moi, c'est le déploiement de la première bêta de Communo, la première version. Ça vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça ce mois-ci. J'y suis presque, donc voilà. Je sais aussi que c'est toujours la fin qui est longue, mais voilà, j'espère bien avancer là-dessus. Et il faut, alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en tout cas, j'ai aussi un petit peu avancé sur le potager collectif. Donc là, il faut que je mobilise une équipe, que j'essaye de trouver une ou deux personnes pour pousser le projet de potager collectif avec moi.
On a aussi notre potager à continuer à faire avancer. Donc là, il y a plein de gaz sur les semis. Hein, je pense qu'on peut les semis. Et puis, on va commencer peut-être aussi à les patates, les petits pois. Enfin, il y a des choses aussi qu'on va commencer à mettre dans le potager. Donc voilà, là, on est sur du très concret, les mains dans la terre. Mais ça, c'est un bel objectif aussi. C'est un mois assez chargé qui s'annonce quand même, hein, parce que entre la semaine à Marseille et moi, je pars en formation scout aussi une semaine. Donc, on remercie d'avance mes parents qui prennent les 5 enfants pour une semaine. C'est un beau challenge aussi pour eux. Et moi, ça va me permettre de vivre... ça fait longtemps que c'est pas arrivé, ça fait 5 ans de vivre une semaine de formation scout sans enfants. Donc voilà, j'ai hâte d'y être, même si je sais pas si on peut le rentrer dans les objectifs, mais en tout cas, je vous en reparlerai le mois prochain. Et un dernier gros objectif, on a décidé de passer de la journée collapso au week-end collapso. Donc si vous avez envie de venir avec nous, venez. On a programmé ça le 1er mai, donc ça doit être 30 avril et 1er mai. Voilà, on s'est mis un week-end collapso, donc si vous voulez venir camper dans le jardin, on peut camper dans le jardin pour un week-end collapso, je pense que c'est pas mal. Donc n'hésitez pas, hein, si vous ne savez pas quoi faire le dernier week-end du mois d'avril et pour le 1er mai. Le 1er mai, c'est la journée où on n'est pas censé travailler, donc en plus on ajoutera le zéro électricité. Donc voilà, c'est notre petit défi du mois à venir.
D'ailleurs, j'ai une collègue qui m'a dit que, en fait, on n'avait rien inventé, que c'était Shabbat, en fait. J'ai jamais intéressé, je l'avoue. Désolé à mes amis juifs. Je suis pas sûr que j'ai déjà mis lui, d'ailleurs. On va pouvoir passer à la petite lecture, que je sais que vous appréciez beaucoup. Ce mois-ci, c'est Marion qui a choisi. Et du coup...
Les Déliés, un roman de Sandrine Roudeau, publié aux éditions La Mer Salée, dans la collection Fiction hors note fiction. C'était devenu une obsession. Je voulais comprendre. Comprendre pourquoi on pouvait être complice du pire. Parce que je voyais qu'on l'était déjà. Je voulais prévenir. Je voulais nous prévenir. nous tous les passagers de l'époque, pour qu'on soit vigilants sur nos faiblesses, mais regarder ailleurs, en totale servitude au mirage de la consommation, aliénés par le conformisme qui nous est si cher, tout ce qui nous coûte si cher. Je voulais comprendre si on pouvait faire rempart au pire. Je me souviens, j'osais à peine faire ce parallèle entre ce que nous devenions et tout ce que j'étudiais. La période de la collaboration, les génocides et tous ces rats de laboratoire qui envoient une décharge électrique à un être humain juste sous prétexte de servir la science. Je me disais que peut-être j'exagérais, je dramatisais. C'est fou quand ta tête essaye de minimiser ce que ton instinct, lui, a très bien évalué. Cela faisait partie des grandes victoires de cette nouvelle ère. Il y avait les rationnements, les renoncements, et puis il y avait tous ces endroits où des hommes, des femmes, avaient repris le contrôle, tous ces endroits défendus point par point qui les avaient forcés à inventer, à se réinventer. C'était une époque de sublimation. Des êtres décidaient de balayer leurs humiliations, de prendre le contre-pied de leur colère à l'encontre des élites hors sol qui avaient exploité jusqu'au bout une terre si belle. Des êtres avaient décidé de retourner leur peur, peur de l'avenir, peur du fou. Mu sait qu'elle n'aura pas le temps de lire ni d'écrire. Dans le désert, c'est tout son temps pour vivre. Vivre le présent et la patience de la marche. Vivre juste la quête du bel endroit. Manger, dormir, rire, philosopher léger, regarder le feu, boire le thé, attendre et contempler la cuisine se faire. Regarder les filles se rouler dans les dunes. Être. Le vertige de cette sensation était juste là. N'avoir aucun compte à rendre, aucun compte à partager. Elle s'en sentirait presque coupable. En fait, non. Quelques secondes, elle repensa à l'époque effrénée des réseaux sociaux, au culte du partage, à sa vie d'avant, aliénée à l'instantané, à sa vie épinglée à tout vent. Quelle fuite! Cela paraissait si loin. Le souvenir d'une illusion, cela fait un souvenir plus fin encore. Pas plus épais qu'un papier de cigarette, comme quelque chose que l'on n'était pas sûr d'avoir vraiment vécu. Pourtant, cela semblait si écrasant alors. Comment avons-nous pu nous perdre ainsi?
À dans un mois pour un nouvel épisode de La Petite Voix.
Il était une fois
la famille Bernardos en vacances dans le Calvados. Et... Y'a quelqu'un ?
J'aimerais bien que mon père rencontre un sumo pour qu'il se fasse écraser.
Bonjour Avril.
Bonjour Avril.
Bonjour. J'ai fait un dessin avec plein de couleurs. J'ai mis du violet, du bleu, je sais plus.
Tu as dessiné quoi ?
Une moto rose. Moi, je suis la maman. Et en fait, là, il était le papa, mais... Et maman, au revoir. Bientôt.
Mon premier monde. Frasin. Mon belle race. Il me devenait de pipi. Il met beaucoup de vélo.
Oui, tu fais beaucoup de vélo. Et comment tu fais le vélo? Est-ce que tu arrives à bien faire du vélo, Zach?
Bah non. Ça me passe le temps.
Est-ce que tu es énervée, Zach?
Mais j'ai un autre cookie.
Ah, tu veux un autre cookie?
Oui.
C'est bon, les cookies?
J'en veux un autre.
Un autre? Un gros ou un petit?
Un gros.
Oh. T'es gourmand, Zach?
Oui.
Oui. Tu dis au revoir.
Au revoir. Tata.
À bientôt.
À bientôt.
Hello.
Tu as fait quoi au mois de mars, Luc?
J'ai fait un poisson d'avril. Oh,
un poisson de quelle couleur?
Je sais pas.
Tu sais pas? C'était pour la fête de l'école?
Oui.
Oui? Et tu l'as mis où, ton poisson d'avril?
C'est accroché sur le poulailler.
Sur le poulailler?
Oui.
Et toi, tu t'es occupé des poules?
Oui.
Tu leur as donné quoi aux poules?
Des graines.
Des graines?
Et du manure.
Ok. Est-ce que tu as fait d'autres choses dans le garage?
Je sais pas.
Ou dans le jardin?
Non, je sais pas.
Avec papa, tu as fait quoi?
Bricolade.
Du bricolage? Tu as bricolé quoi avec papa?
Je sais pas. Au revoir.
Et tu dis bonne soirée.
Mais... Maman, maintenant c'est à Kéo.
Maintenant c'est à Kéo. Ok. Bonjour Kéo.
Bonjour.
Qu'est-ce que t'as fait au mois de mars, Kéo?
Bah, on a fait une pyjama party et...
C'était avec qui ta pyjama party?
Nils, Antonin, Mathéo et avec Zach, Avril, Luc et Tim. Et Thomas. On a regardé un film, on a fait de la Wii et on a mangé des croque-monsieur. On s'est couché à minuit.
Et Harry Potter, vous avez fini avec maman?
Ouais, oui, on l'a fini. Et on a regardé le film et là, on va passer au 4.
Merci, Kéo. Bonne journée.
Bonsoir.
Bonsoir, alors. Bonjour, Tim.
Bonjour.
Qu'est-ce que t'as fait au mois de mars, Tim?
Mon anniversaire.
Et t'as eu quel âge?
10 ans.
10 ans? Et t'as fait quoi pour ton anniversaire?
Un tournoi de foot. En gros, on est allé au City Stade. Et on a fait des matchs.
Et t'as eu quoi pour tes 10 ans?
Un œuf, des cartes Pokémon. Comment?
Tu te rappelles déjà plus? T'as eu trop de choses alors?
Ouais.
Et papa et maman, ils t'ont offert quoi?
Rien.
Et pourquoi papa et maman, ils t'ont rien offert?
Parce que il y a eu beaucoup trop de cadeaux.
Tu veux nous dire autre chose?
Non.
Est-ce que t'étais content que les amis et la famille viennent pour ton anniversaire?
Ouais.
T'es content de les voir?
Hein?
Au revoir, Tim.
Au revoir.